Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, retrouvez les deux premières heures en podcast, évidemment, retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement, bien sûr, pour revenir sur notamment notre présentation de Liège-Bastogne-Liège. On va parler de Paul Sexa, c'est ce qui va faire douter Tadej Pogacar. Pour l'instant, on a un début de course un petit peu curieux, on va dire, avec Remco Evenepoel dans un groupe à 217 km de l'arrivée. Maria Azé au commentaire, dis-nous ce qui se passe.
Eh bien, il se passe que Remco Evenepoel est toujours dans ce groupe de tête composé d'une cinquantaine de coureurs, groupe de tête où ne sont pas Paul Sexas et Tadej Pogacar, je vous le rappelle, suite à une cassure en tout début de course, liée à une chute. Donc Remco Evenepoel est bien dans ce groupe de tête de 50 coureurs. Ils ont, selon les, on n'a pas encore la diffusion, mais selon ce qu'on nous dit, ils auraient 3 minutes d'avance sur le groupe Pogacar-Sexas, donc une avance assez conséquente. Alors il reste plus de 200 km de course, la course est encore très longue, mais tout de même il ne faudrait pas que Remco Evenepoel se retrouve tout seul au moment des arrivées dans les grosses difficultés, parce que ça pourrait devenir compliqué pour Tadej Pogacar et pour Paul Sexas évidemment.
On est dans un début de course où effectivement les informations arrivent au compte-gouttes via Radio Tour, ça se passe souvent comme ça aussi. Non mais Jérôme, là ça commence à être un écart important, mais bon, ça va réagir chez eux. Mais ils vont lâcher des forces.
Ils avaient un coureur dans le groupe de tête qui s'appelle Domen Novak, et pas Novak Djokovic, et qui vient d'être rappelé à l'ordre, qui vient de se relever du groupe de tête et qui va rouler derrière. Donc en gros, lui, sa mission maintenant, c'est de dire bonjour à ses nouveaux copains derrière pour aller chercher les anciens copains devant. Et pas de panique. Enfin,
je me donne des infos. J'étais avec les mecs devant, je sais pas ce qu'ils font.
Je pense que ça va vite, attention.
Ça va rentrer dans la tête des garçons de devant aussi, des Lek Nessun, par exemple, le Danois qui est devant, le Norvégien, pardon. Lui, c'est pas quoi faire. Je sais pas si la meilleure des positions, c'est pas celle d'être derrière plutôt d'être devant, parce que prendre des décisions comme ça si loin de l'arrivée, c'est très compliqué. Et on le sait tous. Enfin, oui, en un groupe de 50, ça va pas s'entendre. Il y a toujours, c'est toujours le bazar. Et Remco est pas forcément dans la plus compliquée des situations, mais c'est pas non plus dans un fauteuil, parce qu'il a que Nico Denz avec lui. Il reste 217 km. La course, en général, elle commence à Bastogne. Et là, ils sont loin d'être encore arrivés à Bastogne. Donc, pour le moment, pas de panique. Tout va bien.
Sur les 50, il y a 11 Français quand même. Donc, on a peut-être super. Une chance de gagner Liège avec ces 11
bien
Français.
Bien sûr, mais il y a des bons coureurs devant. Ewan Kutsu est devant. Thibaut Guernalec est devant. C'est toujours mieux de prendre les choses les courses par le bon bout.
Non, mais pas de panique. Maintenant, pas de panique pour Paul Sexas à 11
ans. Panique pour personne.
Voilà. C'est ça que c'est important de le dire.
Oui, mais alors, ceux qui sont devant, ce scénario-là était quand même pas prévu. Est-ce qu'ils se disent pas même pas des gros outsiders?
Oui, mais pour gagner une course comme ça, Juju, il faut avoir un plan, et il faut surtout sacrifier des gars pour un. Tu sacrifies qui dans le groupe de tête pour rouler pour qui?
C'est ça, toutes les grandes classiques, il y a toujours ce qu'on appelle l'échappée matinale. Ouais, c'est une échappée matinale. La seule différence, c'est qu'il y a un cadre devant, quoi.
Disons que ça va être plus compliqué de s'alimenter tranquillement avec sa musette à la mi-journée s'il y a un groupe avec un favori devant.
Ah ouais, là, faut serrer les calepiers. C'est sûr que par contre,
c'est pas le moment de faire
ce qu'on peut juste dire, c'est que tous les coureurs du peloton ne reverront pas l'ensemble des coureurs de tête. Ça, c'est sûr. Il va y avoir une guerre et une chasse qui va augmenter la vitesse du peloton. L'aller pour aller à Bastogne se fait aujourd'hui vent dans le dos, et le retour vent de face. On va arriver à Mur-Saint-Roch, qui est la première grosse difficulté de la journée. Il y en a qui vont pas voir Liège ce soir.
6 heures de course et certains vont être carbonisés. Si ça part comme ça,
pour certains, ça va faire 4h30, 5h, parce que après l'enchaînement Stoke One, haute levée, je pense qu'il y aura moins de monde dans le peloton.
Allez, merci Marie, on te retrouve évidemment, tu nous tiens au courant de ce qu'il se passe sur la doyenne des classiques. Allez, tout de suite les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a interpellé, c'est une interview que nous avons réalisée pour notre podcast Rugby Entre les Poteaux. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs, avec Sébastien Tillousbord, le manager de Montauban, promu surprise en top 14 cette saison et condamné à la redescente avec seulement une victoire en 22 matchs. On a parlé avec lui de la difficulté de survivre dans l'élite économiquement, mais aussi pour certains joueurs pas forcément préparés à cela. Écoutez.
La différence, elle est énorme. Elle est énorme sur les joueurs individuellement. Mais elle est surtout énorme sur la cadence du championnat. Et je pense aussi qu'il y a des joueurs de Pro D2, ils sont pas câblés pour jouer en top 14. Moi, j'ai aujourd'hui des joueurs que j'adore, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer en top 14. Et donc, j'ai un tiers de l'effectif qui est capable d'y jouer. J'ai un autre tiers qui est pas capable. Il y a un autre tiers qui a pas envie d'y jouer. Pas envie parce que le championnat, il est pas bien, mais parce que la vie de famille, elle est différente. parce que la vie au quotidien, elle est plus difficile de jouer en top 14.
Et parce que c'est une vie différente, effectivement. Bien et sûr. Ça, on n'en parle pas suffisamment de ce que représente l'élite quand on y est et les niveaux de sacrifice. Déjà, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Quand on est fait ou pas pour l'élite, comment savoir, comment y survivre? C'est vrai que c'est rare d'avoir des mots comme ceux de Sébastien Tillousbord pour essayer de comprendre. Cédric, bon, tu as joué en top 14. Tu comprends les mots du manager de Montauban?
Bien sûr, je les comprends et je vais dans son sens. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu dois faire des sacrifices, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a tout ton entourage qui fait des sacrifices. Après, je crois que le sportif, tout sport confondu, a quelque chose. Je disais, je sais pas si c'est en plus ou en moins, mais la perception de l'effort, de l'engagement, il a pas notion de ce qu'il vit parce qu'il est acteur de sa vie. Il est dans l'instant présent, même s'il y a des remises en question. Mais il vit sa vie à travers son sport et il est acteur. Tu ne regardes pas tout ce qui se passe à côté. Le moment où tu commences à regarder tous les efforts que tu fais, c'est fini.
Tu veux dire celui qui est câblé pour le haut niveau, ouais, en fait, pour prendre les mots
celui
de
qui est câblé.
Il se rend pas compte.
Ouais, il se rend pas compte parce que pour lui, c'est naturel.
Il y a une forme d'égoïsme aussi de
mais dire. Totalement. Il faut être égoïste. Si je prends mon cas, moi, j'ai eu la chance que mon épouse, parce que économiquement, on pouvait se le permettre, élève nos deux filles et me laisse penser qu'au rugby. Quand tu es joueur en Pro D2 et que t'es pas un top player de Pro D2, économiquement, mais ton épouse travaille, il y a la gestion de la vie de famille, il y a le sacrifice des week-ends. En plus, la Pro D2, ça joue jeudi, vendredi, donc...
Du coup, t'as tes week-ends, en fait, en Pro
D2. Ouais, non, tu t'entraînes.
Oui, tu t'entraînes, mais bon...
Ah non, tu t'entraînes, c'est-à-dire que ta vie, elle est encore plus décalée qu'en top 14, donc...
T'as pas de déplacement et tout, tu vois, c'est ça que je veux dire, le week-end.
Ben ouais, mais t'es à entraînement, t'es souvent en séance clean, récupération... Non, c'est une vie à part, et pour quel bénéfice, pardon. C'est-à-dire qu'économiquement, ben non... Quand t'es pas dans un club qui joue le top niveau et qui espère monter, ben c'est dur. Quand on prend le cas de Montauban, là c'est défaite après défaite, donc mentalement c'est dur. T'as pas envie de faire d'efforts et puis les joueurs sont aussi âgés. Donc
t'en as vu des joueurs pas câblés pour le top 14 qui justement pour l'élite.
C'est compliqué, hein. Ils sont tous câblés, au contraire, ils sont tellement câblés qu'ils veulent te mettre dehors. Non, à Toulouse, j'en ai pas connu. Par contre, j'ai connu dans d'autres clubs des joueurs que ça leur allait très bien. D'être, voilà, je joue, je suis en top 14, je fais mes petits entraînements, mes petits matchs, mais je me contente de ce que j'ai, je vais pas chercher au-delà de ce que je peux avoir.
Jérôme, être dans l'élite, la difficulté d'y être et être fait ou pas pour ça. Je sais pas. Alors vous avez tous commencé dans votre jeune carrière, j'imagine. Vous avez croisé des gens qui étaient plus forts que vous, peut-être, et qui sont pas arrivés au haut niveau parce qu'ils étaient pas faits pour ça.
Oui, la fameuse phrase du parent ou du coureur. Oui, mais le mien, il fait des études. Oui, mais le mien, il travaille. Oui, mais le mien, il a autre chose. Oui, enfin le tien, il est surtout pas fait pour être top niveau et donc
il y avait les croisés aussi. Quand
là, j'ai fait ouais les croisés. Nous chez nous, c'était la clavette ou non. Je crois que et c'est, je veux peut-être passer pour quelqu'un d'ultra prétentieux, mais pour arriver à la haute performance comme on a pu atteindre tous les trois, bah faut juste être fait pour ça et ça nous semble tout à fait naturel. L'accompagnement ensuite, je te rejoins Cédric. Les gens qui nous accompagnent dans la vie à l'instant T doivent nous accompagner et être à la hauteur et se sacrifier un petit peu parce que c'est clairement de l'égoïsme.
Complètement même.
Mais il y a des belles compensations. On va pas se mentir.
Quand il arrive.
Mais moi j'entends pas le discours de je préfère jouer au niveau en dessous et comme ça je peux avoir une vie normale.
Et parce que toi t'as le logiciel du haut niveau.
Voilà. Bah oui, mais c'est pour ça. Donc c'est ce que je dis. Quand tu es à haut niveau, soit tu es fait pour ça, soit tu n'es pas fait pour cela. Et fait autre chose.
Mais c'est pour ça que Sébastien Tillousbord, il le dit sans problème, en fait.
Oui, mais là, tu vois, la problématique ouais, on n'a pas les week-ends pareils, etc. Enfin, oui.
Mais parce que c'est pas une vie, finalement.
Mais nous, on fait un sport,
on parle de 200 jours par an. Oui, mais Montauban pas du tout préparé à monter en top 14.
Mais je l'entends. Mais pour le débat, moi, j'ai croisé beaucoup de coureurs chez les jeunes, chez les juniors ou les espoirs, qui étaient très bons, bien meilleurs que moi. Thomas Baudot, Régis Lullier, des gens qui sont passés professionnels. Mais ensuite, c'est là que ça commence. Le sacrifice, partir longtemps, se dire
en fait,
que
c'est les habitudes qu'on prend.
Mais en fonction, moi, ça me semble naturel. Ouais,
bien sûr. Mais attendez, mais en fonction de la pro des deux, c'est quand même. C'est, aujourd'hui, c'est des pros, c'est des mecs qui gagnent 5000 euros par mois en moyenne. C'est pas non plus des
oui, c'est pas des joueurs de national.
Des joueurs de promo.
Non,
quoi.
Mais j'ai pas fini. J'ai joueurs pro des deux qui gagnent bien moins de 5000 euros.
Ouais, mais
j'ai pas fini mon argumentaire.
Salaire moyen des joueurs de pro des deux, c'est entre 4000 et 4800.
Mais là, je te parle pas d'oseille. Aujourd'hui,
on a. Non, mais toi, tu parles de.
Non mais c'est pas des amateurs.
Moi j'ai creusé aussi beaucoup de coureurs qui disent ouais mais finalement courir élite, donc la meilleure division mais amateur, ça me va bien. Non mec, ça te va pas, c'est que t'es pas assez doué pour être plus haut, c'est tout. Pro D2, si t'es pas câblé pour, c'est pas câblé, il faut du talent aussi pour jouer dans les meilleurs clubs et durer sur la longueur. Enfin je veux dire, enfin je sais pas si tu dis moi je suis bien sur le circuit parallèle parce que oh les tournois du Grand Chelem c'est non mais c'est que t'es pas capable d'y aller.
Alors nous ils disent pas, il y en a pas un qui dit ça parce qu'il y a vraiment une différence, donc ils veulent, mais il y a il y a plusieurs raisons qui font que certains ne passent pas le cap. Il y a le style de vie, parce que le tennis, c'est un sport individuel itinérant. Et donc, le style de vie où tu voyages beaucoup, où tu es loin de chez toi, où c'est des habitudes que tu prends quand tu es plus jeune.
Mais on les apprend pas, on les a.
Ouais, voilà.
On les prend
en fait,
et on les
fait,
a.
C'est comme ça. Et en fait, c'est propre à chaque sport. Parce que quand moi, j'entends les footballeurs qui disent « Ah putain, c'est dur, on n'est pas... » Les gars, vous êtes tout le temps chez vous. Ouais.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai quand ils disent, je prends ma retraite internationale parce que comme ça, t'as trois fenêtres internationales de 10 jours où t'es pas à la maison, où tu vas à Clairefontaine, et après tu rentres chez toi. J'entends, parce que pour eux à ce moment-là, c'est un sacrifice, perdre famille, etc. Mais si tu ramènes à la vie d'un cycliste, à la vie d'un joueur de tennis, à la vie d'un golfeur, des sports individuels itinérants, ce truc-là. Il y a une différence dans la balance qui est incroyable. Et il y a une autre chose, c'est que pour revenir sur ce que disait Jérôme sur nous, le circuit secondaire, etc. Nous, il y a des joueurs qui, ont des consignes entre guillemets, ont les entraîneurs en disant voilà, pour aller au plus haut niveau, il va falloir que tu fasses évoluer ça dans ton jeu. Et il y a des joueurs tout simplement qui
n'y arrivent pas.
Mais non, qui n'imprègnent pas et qui comprennent pas le jeu, qui comprennent pas.
Ça s'appelle le talent.
Ben,
je sais
oui.
pas.
Non, je pense
que non, parce qu'il y a
le talent,
l'intelligence.
Exactement.
Où tu comprends ce qu'on te dit et tu mets en application.
Exactement.
Mais il y a aussi
le talent.
Mais c'est pas une question d'être bête. Il y en a qui pigent les maths, il y en a qui pigent pas, il y en a qui sont bons en français, peu importe, c'est que t'as la disquette au niveau avec compréhension, mise en application.
Mais évidemment, tu vois, mais il y a du talent pour être au plus haut niveau. Il faut avoir quand même une dose de talent. Même il y a des mecs qui vont travailler toute leur vie, qui vont être des acharnés, mais qui n'auront pas le petit plus qui leur permet, qui vous a permis à vous
je de faire je suis d'accord avec toi, mais par rapport au talent, je suis plus d'accord
ça
avec toi.
Ça ne suffit pas, mais c'est indispensable.
Non, mais exactement.
Oui, mais être en capacité de transformer des idées.
La disquette, intelligence, compréhension. Pour toi, Jérôme, ça fait partie du talent. Moi, je sais pas si c'est le talent, parce que le talent, dans mon imaginaire, c'est
la
plus
classe, quoi. C'est
non,
inné.
C'est pas la classe, c'est le truc. Ok, par rapport à un enfant de ton âge, tu joues mieux au foot, ou tu joues mieux au tennis, ou tu joues mieux au rugby. Et puis après,
un mec comme Sexas, il a une génétique particulière.
Oui, on a vu plein de talentueux pas réussir à s'imposer.
Mais si pour moi,
dans toutes ces catégories, on apprendra bien sûr le travail. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. La question qu'on se pose, le débat en tout cas, c'est sur la difficulté ou pas à réussir à être dans l'élite et à s'y maintenir. C'est pas anodin du tout. Et on l'a vu avec le manager de Montauban qui dit dans sa propre équipe, Cédric.
Non, ce que je disais, c'est qu'on a plein d'exemples de joueurs meilleurs que nous à notre âge et qui ont disparu parce que la génétique a pas suivi. Il y a, du moins dans le monde du rugby, il y a quand même le physique qui rentre en jeu. L'entourage, l'entourage, les rencontres qu'on fait. Parce que moi je suis persuadé que si à un moment donné je suis alors là commencez pas mais si je rencontre pas mon épouse
les gars qu'est-ce que c'est que cette tablée
mais je peux partir en vrille
bien sûr
après j'ai trouvé les bons managers mais ça c'est pas de l'intelligence c'est pas inné c'est des rencontres qui font que mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est comprendre ce qu'on te demande et le mettre en application. C'est une forme d'intelligence qui est faite pour le sport. Et si on a beau expliquer ce qu'on veut à Tiger Woods, Rory McIlroy ou sur du vélo, si tu n'es pas capable de
transcrire ce qu'on te dit et de le sortir au bon moment, c'est pas du talent, c'est de la mise en application de,
oui, mais
de
savoir, tes consignes. Et ça, je suis complètement d'accord, mais aussi savoir s'entourer et savoir repérer les bonnes personnes, que ce soit professionnellement ou personnellement. Cédric dit que lui, la rencontre avec son épouse l'a aidé, etc. Mais il y en a d'autres, dans d'autres sports, soit ça peut les aider, soit aussi ça peut les freiner, parce que c'est
le
pas
père,
forcément.
Le père ultra présent, par exemple.
Voilà, qui... ou une compagne qui est plutôt nocive, entre guillemets, sur des. Et qui, l'athlète ne se rend pas compte. Mais c'est évident. Un préparateur physique ou un kiné qui te fait travailler dans le mauvais sens, te fait pas progresser, être capable de s'en apercevoir, être capable de prendre la décision, de dire non, ok, j'arrête, je change, c'est aussi une forme de bien talent sûr. Ou d'intelligence.
C'est la personne qui
pour
est fan, ou qui
lier. Pour durer après, et percer dans le haut niveau.
Tu tombes sur un préparateur physique en qui t'as confiance, qui te fait faire des bornes pour travailler ton fond, tout ce que tu veux. Mais le gamin, il est bon dans l'explosivité. Moi, je peux passer à côté parce que sa fibre musculaire n'est pas capable.
Mais ça dépend aussi beaucoup des disciplines. Moi, je viens d'un sport où, franchement, le gars ultra talentueux qui est câblé comme il faut, donc qui a du talent. C'est rare quand il y arrive.
Il va y arriver.
Ouais, mais ouais. Tu viens de dire, c'est rare quand il y arrive. Et câblé.
Ouais, mais bien sûr, mais non, mais parce que je te dis que.
On a vu des vainqueurs du Tour de la
Gire. Je te dis que le talent.
Oui. Champion du monde espoir.
Oui, bah parce qu'il manquait quelque chose. Ouais, il y avait peut-être que la force physique.
Romain Sicard, il y a quelques années, je crois. Voilà,
parce qu'à une époque, je sais pas si. Il fallait aussi avoir un bon médecin aussi.
Il y a une époque, je sais pas. C'est pas le cas de l'époque de Romain Sicard, mais après, il y a plein de coureurs aussi qui se perdent en route. C'est aussi, l'admiration que j'ai pour, par exemple, Marchand, qui est encore capable de faire les efforts à très haut niveau et les efforts
passifs.
Il faut être capable de
si
ça.
Si tu l'as ou pas.
Oui, mais
c'est-à-dire que Léon Marchand, il se pose pas ces questions. Donc pourquoi il se les pose pas? C'est-à-dire qu'il est câblé avec peut-être quelque chose en moins qui dit.
Ouais. Oh, c'est naturel. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'exemple de Léon Marchand, c'est que la fabrique du haut niveau, elle évolue aussi, elle progresse avec. Il faut toujours faire plus de sacrifices. Il faut prendre en considération plus de choses. Les stages sont de plus en plus longs, peut-être en cyclisme. Regardez, je sais pas, Cristiano Ronaldo ou LeBron James en basket ou en foot, ils ont repoussé encore plus loin
non,
à chaque fois.
Pas des sacrifices, la... c'est naturel.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont repoussé le plus loin possible la norme de ce que doit être un sportif de haut niveau. Quand ton sport se transforme et quand l'élite se transforme, il faut être capable de s'adapter à ça. Ben, en fait,
moi, je pense qu'il faut juste être capable.
Pour durer, tu rentres dans une autre catégorie pour durer.
Ben oui,
c'est pas pareil.
Mais du coup, ça réduit le nombre de personnes capables de le faire aussi.
Mais ouais, mais il y en a pas tous les coins de rue.
Est-ce que tu aurais eu envie de faire du cyclisme aujourd'hui, Jérôme? Quand tu vois à quel point c'est devenu ultra professionnel, la nutrition. Regarde, je sais pas, des coéquipiers comme toi, est-ce que Sylvain Chavanel, qui était plutôt un romantique, qui aimait bien ne pas regarder ses données, est-ce qu'il kifferait aujourd'hui le monde de la data, de on ne fait attention à rien, on a les oreillettes, on ne part pas? Non, mais c'est ça aussi l'adaptation à l'élite.
La réponse est oui, parce que quand tu es gamin, tu rêves, et quand tu rêves de Tour de France, quand tu rêves de Paris-Roubaix, quand tu rêves du Tour des Flandres, eh bien, tu fais les sacrifices pour y arriver, quelle que soit l'époque à laquelle tu vis.
Et voilà, et en fait, tu t'adaptes
à l'époque. Je pense aussi que les anciens qui disent bah non dans ce cyclisme là, dans ce football là, dans ce rugby là, dans cette mais si en fait tu te serais adapté, on se serait adapté.
Moi je vais te dire personnellement.
Et pour l'exemple typique aussi du talent, pour revenir sur le talent, c'est lorsque Cédric, Julien ou moi on reprend le sport qui est le nôtre, il faut peu de temps pour déjà retrouver un peu de sensation et un peu de choses. Et beaucoup de gens s'en étonnent. Bah oui, mais ça s'appelle le talent en fait. C'est juste parce qu'on est fait pour ça. Et ça étonne parfois. Mais moi, dans mon sport, c'est assez simple de trouver qu'un coureur cycliste qui a fait une belle carrière reprend son vélo, fait des compètes, ou avec les cyclos le dimanche qui se prennent tous pour des vedettes et leur met des tartines au bout de 3 sorties. Et certains s'en étonnent. Bah oui, mais les garçons, c'est inné en fait. Je pense que on a quelque chose en ça. Et pour transformer ça vers le haut niveau, mais quelle que soit l'époque, si aujourd'hui, j'aurais même presque dit, je dirais presque, j'aurais aimé plutôt avoir vivre maintenant, parce que ils sont guidés. Moi, ce que j'ai manqué, c'est de guide. On tâtonnait. J'étais moi à l'époque, malgré mon côté un peu branleur, j'étais dans l'attente de conseils, de science, parce que ce que j'aimais pas, c'est le hasard, et quand je prenais les choses en main, en général, c'était le bordel, comme dans tout dans ma vie. Mais par contre, si j'étais guidé, eh bien, ça marchait plutôt bien. Et les années où j'ai très bien fonctionné, c'est l'année où j'avais un coach, il y avait un retour sur les données, il y avait le premier capteur de puissance, et là, donc j'aurais adoré faire ça. Et tu cites Sylvain, ça aurait été un tout autre champion, dans cette époque-là, parce qu'il avait moins, on avait peut-être moins de liberté, mais exploitation totale du potentiel. Et du potentiel, il en avait. Et je pense que
j'aurais aimé jouer, mais là, quand je les regarde, je les envie parce que ça va plus vite, ça t'a plus fort. Les joueurs autour de toi, ils sont tous doués, ils sont techniques.
T'aurais eu envie de faire partie de cette élite-là encore
aujourd'hui. Ah oui, parce qu'au moins, il avait des coéquipiers à la hauteur de sa vitesse.
Ouais, voilà.
Il allait trop vite.
Non, mais ils vont beaucoup plus vite. Mais je.
Bien Biarritz mettrait combien sur un 100 mètres?
100 mètres. Mais j'aurais aimé garder cet espace de liberté. Aujourd'hui, ils peuvent, sur le parle de l'ultra champion, ils peuvent rien faire, tout est commenté. Cet anonymat là, j'aime c'est aller dans un endroit où on me reconnaît pas déjà.
L'élite, c'est ça aussi
mais c'est ce que j'allais dire.
Moi, ça serait adapté, non?
Bien sûr.
Ouais, en te cachant,
En fait, moi, tu me dis aujourd'hui, Beneteau, 44 ans, t'as envie d'être joueur de tennis aujourd'hui sur le circuit?
Ah oui.
Non.
Ah non.
Moi, je t'ai dit non. Je vais faire le vieux con. Je préfère quand je jouais en 2010, 2011, 2012, par rapport au circuit d'aujourd'hui, on avait un peu plus de coupures, il n'y avait pas les Masters 1000 sur 12 ans, sur 12 jours, il n'y avait pas.
Mais
j'aurais 16 ou 17 ans aujourd'hui.
Ah ben voilà.
Avec les mêmes rêves.
Ah oui, ben moi aussi
j'avais
16
ou 17 ans. Et que je regarde Alcaraz Sinner. Mais. Les jouer. Et donc, du coup, les entraînements seraient différents, la préparation physique, elle est différente que moi, ce que j'ai connu. Et donc, en fait, tu t'adaptes. Si t'es fait pour ça, et si t'as envie de ça, c'est pas des sacrifices. En fait, tu t'adaptes à ton époque.
Moi, j'aurais aimé savoir si mon corps était capable de supporter ce niveau.
Avec ce qu'on vit au mois de juillet. Quand on est au mois de juillet, sur le Tour de France avec Christophe et les équipes et Gégé Coppel, on les regarde et on se dit mais on adorerait être à leur place en fait. Et je pense que un jeune qui apprend le journalisme, des fois tu dis on parle longtemps, mais ils veulent être à ta place aussi, parce que
même si tu vois les coureurs ça va trop vite,
envie de les voir, et puis je pense qu'ils en ont conscience et de leur dire les gars kiffez, parce que le meilleur moment c'est maintenant, c'est le Tour en plus, et c'est votre le plus beau moment de votre vie. Moi, les plus beaux moments de ma vie, il y a eu mes enfants, les naissances de mes filles, mais faire le Tour de France, faire Liège-Bastogne-Liège, faire Paris-Roubaix, être coureur cycliste professionnel, c'est génial.
C'est pareil quand tu es journaliste, comme observateur aux Jeux Olympiques, au Tour de France, c'est pareil, c'est l'élite.
Tu vas être journaliste, tu vas avoir ton émission, tu es passionné de vélo, tu veux commenter le Tour de France, t'es rugbyman, tu veux faire une Coupe du Monde ou être champion de France. C'est chaque fois, tu vas chercher
les Jeux, les Jeux,
t'es là, tu rentres et tu joues à Roland-Garros.
Donc t'es prêt à tous les sacrifices pour ça en fait.
Les joueurs disent que je suis pas prêt à faire des sacrifices.
Tiens, quand t'arrives à 8h30, 9h du matin, le premier lundi à Roland-Garros, tu joues à 11h ou midi, t'as mal au ventre, et les trucs, il y a personne dans les allées, c'est fantastique. Il fait 10 degrés, c'est à l'ombre, les terres battues, elles sont magnifiques, elles sont humides, etc. Tu dis, mais putain, mais quand j'avais des frissons. Quand t'es gamin, tu rêves de ça. Et aujourd'hui, en fait, il faut pas oublier ce à quoi tu rêves quand t'es gamin.
Tout part d'un rêve. Je
suis peut-être hypersensible, mais quand il y a des moments comme ça, tu vois, j'ai les larmes qui arrivent, j'ai les frissons, parce que ça manque cruellement. Mais aujourd'hui, ce que je veux et ce que je leur souhaite, perdez pas votre regard d'enfant sur cette passion qui vous anime quand vous rentrez sur un central, quand vous jouez une finale. C'est la passion qu'on va mettre. Faut pas mettre ça c'est pas anodin, parce que c'est ce que vous avez au plus profond d'eux-mêmes. Ce qui te manque et ce qui te permet de te sublimer.
Et c'est ce que tu disais, c'est tu ne dois surtout pas oublier quand tu es dans l'action que lorsque ça va s'arrêter, plus jamais tu vas retrouver cette sensation.
Allez, on referme la porte du vestiaire, faire partie de l'élite ou pas. Évidemment, l'élite, c'est pas tout n'est pas beau. Faut pas être naïf non plus, mais il faut être prêt à ces sacrifices-là. Non, mais il faut être conscient. C'est pour ça que c'est bien, vous le disiez aussi, de tout ce que ça représente de faire partie de l'élite. Et on l'a entendu avec Léon Marchand tout à l'heure, notamment. Il faut se poser les questions. Vous, jeunes auditeurs, auditrices, vous faites du sport en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Est-ce que vous rêvez suffisamment pour avoir envie d'y aller? Allez, les amis, dans un instant, on va parler de PSG Bayern. C'est dans deux jours. Est-ce que ce Bayern vous fait peur? Le vestiaire, on peut le retrouver en podcast, évidemment. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Tiens, dans le vestiaire, on se demandait comment survivre à l'élite, être prêt à ça ou pas. J'ai Philippe qui m'a dit super débat encore, les amis. En tant que préparateur mental, je pense que c'est une réelle alchimie entre les capacités physiques, tactiques, l'intelligence de jeu et mentale, motivation, autodétermination. Pour bien se connaître, il faut savoir où est-ce que j'ai besoin de progresser, en fait, aussi pour atteindre le haut niveau. Et puis, j'ai un autre message de Léa qui dit il y a des tennismen que j'aime pas, dont Julien Beneteau. Bon, ben, ce sera pas un vote pour ta présidence de l'Olympique de Marseille. Je vais en dire un message un peu gratuit.
Ouais, ouais, tu vas en dire. Mais
tu sais pourquoi ? Parce qu'il sait que t'es capable de prendre l'OM et il y a une pointe de jalousie. Non,
mais non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a
Léa, le hashtag. Je la connais pas en plus.
Le hashtag Bennett président commence à prendre de l'ampleur.
L'influence de la journée, je crois.
Je pense que c'est un trending topic sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Dans un instant, les jeux du sport. On va voir qui connaît le mieux le sport. On va voir si tu reviens au plus haut niveau quand même. Parce que la dernière fois, tu nous as un peu déçus.
Ça dépend des questions.
D'accord. Il faut dire que les questions.
Ouais, en ce moment, c'est catastrophique. Même Fred Pouillet fait des meilleurs kick avec lui.
Ouais. Waouh. On va peut-être vous mettre ensemble tous les deux. Et vous faire perdre. Le PSG, les amis, a fait un grand pas vers le titre de champion de France en gagnant à Angers 3-0 hier. Les Parisiens comptent désormais 6 points d'avance sur Lens à 4 matchs de la fin. Les hommes de Luis Enrique peuvent se concentrer tranquillement sur le prochain objectif. Le Bayern arrive à Paris dans 2 jours en demi-finale aller de Ligue des Champions.
RMC, les GG sur le buzzer.
Nabri, Luis Diaz, le but pour le Bayern. Pour le Bayern Munich, 2-0. La défaite du PSG, 2-1 face au Bayern. Pour Harry Kane, oh, partout, magnifique. Le tueur, Harry Kane. Luis Diaz qui frappe et le but. Michael Olise qui va faire une dernière accélération, qui va rouler et qui va marquer.
Magnifique.
Ah là, les amis, c'est les dents de la mer, hein, qui arrivent peut-être.
C'est les dents de la mer, ça ?
Ouais, c'est les dents de la mer.
Ouais.
T'as peut-être que le nom en anglais,
Jones.
Cela ressemble à une finale avant l'heure entre les deux mastodontes français et allemands. Le Bayern déjà sacré en Bundesliga, ils ont 18 points d'avance sur Dortmund, Dauphin. Les Bavarois ont gagné 4-3 hier à Mayence après avoir été menés 3-0 avec des remplaçants au coup d'envoi. Les hommes de compagnie n'ont perdu qu'une fois en championnat en 31 matchs, une défaite en Ligue des Champions cette saison à Arsenal. Ils ont déjà battu le PSG au Parc cette saison à 10-11. Le Bayern avec Olise, Kane, Neuer a éliminé le Real au tour précédent. Les GG, je vous pose une question très simple, puisque on a mis le musique.
Ouais,
et après je permets de mettre des coups de rap.
Les gens croient les journaux.
Christophe, tranquille, tu peux rester encore 10 ans. Il n'y a personne qui a monté à place.
Là, on sent, on est passé du côté
haine. Il a basculé.
Non, mais je commence à sentir une petite musique de quelque chose. Vous attendez le moment où je déluche. Je me disais la musique qui fait peur. Voilà, le film qui fait peur. Est-ce que ce Bayern vous fait peur ? Oui ou non ? Jérôme ?
Ouais.
Bennett ?
Pas pour ce PSG.
Christophe,
le Bayern m'a toujours fait peur. Moi.
Je suis d'accord avec Benoît.
Pas pour ce PSG. Vous n'avez pas connu le traumatisme des années 70. Ou...
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, Luis Enrique hier sur la préparation donc idéale avant d'affronter le Bayern. On va l'écouter dans quelques instants. C'est parti, Luis Enrique.
On a bien fait le boulot. Mais normalement, ce type de match avec le soleil, les moments de que tu penses qu'il faut jouer contre Bayern de Munich, ce sont les typiques matchs que tout le monde commence à avoir des problèmes. Ça, aujourd'hui, on a fait au contraire. Pour moi, ça montre qu'on est prêt. Ça montre qu'on est prêt pour jouer la demi-finale. Et demain, on va commencer cette petite préparation pour cette demi-finale.
Ouais, toute petite préparation, effectivement. Mardi, le match. Cédric, alors on a écouté Luis Enrique. Là, est-ce que ce Bayern fait peur ? Toi, je crois que justement, le coach parisien te donne confiance.
Oui, moi, il me donne. Oh, pardon.
Oui, moi, il me donne confiance. Son équipe me donne confiance parce que cette année, le PSG, ils savent mettre le curseur pour jouer ce championnat et le gagner. Et quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils ont un autre curseur. Ils sont capables de hausser leur niveau. Ils ont pété leur plafond de verre, je le redis encore une fois, parce qu'ils sont champions. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Le Bayern est une grosse équipe. Hein. Je suis pas en train de minimiser l'adversaire qui va arriver. Ils enfilent les buts. C'est un championnat hyper ouvert où il y a beaucoup plus de buts que dans notre championnat qui est beaucoup plus tactique. Mais ce PSG-là me...
T'as l'impression qu'ils ont
plaisir.
T'as joué dans des équipes de gagnants avec l'ADN de gagnant. T'as l'impression qu'ils ont récupéré cet ADN.
Ouais. Moi, je.
Ils ont trouvé le bouton.
Ouais, on les critiquait en début de saison sur leur préparation physique. Sur, je crois qu'ils arrivent au bon moment avec la bonne préparation physique, avec la bonne confiance. Ils se sont rassurés hier, c'est ça.
Ouais, ouais,
ils
jouaient hier. Ouais.
Sans trop forcer non plus. Il y a eu beaucoup de rotations au bout de pratiquement à la mi-temps. Ils ont fait tourner. Donc, ce PSG-là ne m'inquiète pas, me donne confiance et je vais passer encore, je pense, de belles soirées devant ma télé.
La confiance en Luis Enrique, en ce PSG, la culture de la gagne. Non, Christophe, tu crois pas
Non, mais évidemment, je suis d'accord avec toi sur ce PSG-là, ce Luis Enrique, qui est un entraîneur fantastique, un groupe, sans doute le plus beau groupe qui ait jamais eu
c'est
le PSG.
Mais rien de latin, Luis
Enrique. Mais le Bayern Munich, je pense, aujourd'hui, est l'adversaire le plus difficile qu'il y ait eu à rencontrer le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le Bayern, c'est plus fort que Liverpool, c'est plus fort que Chelsea, c'est plus fort que le Real, on l'a vu, c'est plus fort que l'Inter Milan battu par le PSG l'année dernière. Donc là, il va falloir vraiment hisser
le plus gros match de l'ère, Luis Enrique.
Pour moi, c'est la finale.
C'est la finale avant la lettre.
Mmh. C'est la finale avant la lettre. Et puis, le Bayern Munich pour des équipes françaises, c'est des souvenirs terribles. C'est évidemment les poteaux carrés de 76. C'est aussi l'ossature complète de l'équipe d'Allemagne qui nous bat en 82. Pour moi, le Bayern Munich, c'est l'équipe qui me file.
Toi, t'as été trop traumatisé par l'histoire. Mais, il y a le poids de l'histoire, c'est jamais anodin, effectivement, pour, avant d'affronter une équipe. Mais cette équipe, actuellement, elle est dingue. Tiens, attendez, je vous ai noté quelques stats, franchement, parce qu'en préparant, j'ai halluciné. Michael Olise, donc le trident en attaque. Olise, 19 buts, 29 passes décisives en 46 matchs. Harry Kane, 53 buts, 6 passes en 45 matchs cette saison. Luis Diaz, 25 buts, 20 passes décisives en 45 matchs. C'est très simple, chacun des trois joueurs de l'attaque sont décisifs à tous les matchs en moyenne.
Tu prends un championnat
à tous les matchs en moyenne.
L'attaque.
Oui, mais attendez, 38 buts en 12 matchs de Ligue des Champions quand même. Ils sont 3 buts par match en Ligue des Champions. Jérôme, ce Bayern te fait peur ?
Ce Bayern, pour moi, est la meilleure équipe du monde actuellement avec le Paris Saint-Germain et avec cette attaque en feu. L'équilibre trouvé aussi au Bayern parce que Vincent Kompany est un coach plein d'humilité qui travaille extrêmement bien et qui arrive à piloter ses stars, ce qui n'est pas gagné parce qu'il sort très récemment du terrain. C'est un garçon qui a une main sur son groupe, mais qui laisse vivre son équipe et qui laisse jouer ses artistes. Et aujourd'hui, dans la hiérarchie du football, pour moi, c'est ce que je disais à l'instant, c'est la finale avant l'heure parce que c'est la deuxième plus belle équipe avec le Paris Saint-Germain, mais c'est plus régulier au Bayern. Et c'est surtout cette sensation de puissance. Et je rejoins Christophe sur c'est la plus belle équipe qui ait eu à affronter le PSG de Luis Enrique depuis longtemps, voire depuis toujours, parce que elle est en plus dans la période où elle marche sur l'eau, quoi. Olise, on parle de la Coupe du Monde, on parle de Dembélé, on parle de Mbappé. Pour moi, le meilleur joueur français
hier,
actuellement, c'est Olise. Le potentiel Ballon d'Or, c'est Harry Kane. Et que dire de Luis Diaz qui, sur son côté, on se demande pourquoi Liverpool va moins bien.
Bon, il avait été expulsé en match en face de groupe contre le PSG, ça a empêché le Bayern de gagner.
Il est diablement efficace et il fait vivre cette équipe du Bayern quand de l'autre côté ça c'est refermé. Ils peuvent attaquer de tous les côtés et c'est très solide, donc évidemment qu'ils font un peu
contrairement
peur
à une finale. Là ça va être sur deux matchs et il va falloir avoir un niveau stratosphérique sur deux matchs pour pouvoir contrer ce Bayern là
et avec le retour à Munich on a vu le Bayern bousculer aussi au retour face au Real. Bennett, ce Bayern te fait peur?
Justement, tu viens de le dire. Moi il me fait peur pas tant que ça. Alors, je minimise pas. Je pense qu'il fait. Je suis d'accord avec Christophe et Jérôme. C'est la plus grande équipe que le PSG a affrontée sur les deux dernières années. C'est un grand Bayern cette année. C'est un grand cru. C'est pas parce qu'ils ont 18 points d'avance que de temps en temps ils ont été champions d'Allemagne, mais en étant moyennasse entre guillemets.
Ouais, t'as raison.
Là, eux, franchement, c'est une très 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 belle équipe. Pourquoi ils me font pas peur? Parce que je pense que les forces du Bayern et notamment cette attaque. Va quand même rencontrer une défense exceptionnelle du PSG avec Nuno Mendes, Pacho et Hakimi qui sont pas loin d'être ces trois-là à leur poste, les meilleurs du monde actuellement à leur poste. Et moi je pense que les forces du PSG sont un peu plus, comment dire, ont un peu plus le dessus sur les relatives faiblesses du Bayern. C'est-à-dire que le trio Dembélé, Gvara, Doué, oui, peut profiter de la relative largesse de temps en temps de la défense du Bayern. Et j'en veux pour preuve, le Real qui au match retour a quand même réussi à malmener le Bayern au Bayern, à Munich, en mettant 3 buts. Et ça, moi je pense que le PSG est quand même beaucoup plus fort que le Real cette année. Et donc c'est pour ça que ça me fait pas trop peur. Et c'est pour ça que, en tant que supporter marseillais, je pense vraiment qu'ils vont faire un truc incroyable, c'est qu'ils vont faire le back-to-back.
Eh oui, c'est-à-dire qu'ils vont conserver le trophée en Ligue des Champions. Tiens, Ethan au 32-16 nous appelle du Finistère. Salut Ethan.
Salut tout le monde.
Le Bayern te fait peur ?
Oui, je pense que qu'on ne puisse pas avoir peur du Bayern, c'est une chose.
Mais oui, voilà, je suis d'accord.
Il faut respecter, bien sûr. C'est ça. Se rendre compte que cette équipe peut te faire douter. Pour moi, vous l'avez dit, c'est la plus grosse confrontation que le PSG a eu et aura sûrement, je pense, parce que c'est une équipe aussi structurée que la tienne, parce que tu as un entraîneur qui est cohérent, tu as un effectif qui est tout aussi cohérent, les résultats ils parlent pour eux. Maintenant, ce PSG-là, qui est donc aussi structuré que le Bayern, ne doit pas forcément avoir peur de cette équipe-là. Elle doit se méfier parce que c'est un peu la bête noire de Paris. On les a battus comme ils nous ont battus. Donc, faut faire attention. Mais cette équipe du Bayern n'a pas grand-chose à envier au PSG. Toutes les équipes ont des failles. Et Julien Beneteau l'a dit, le Bayern Munich s'est fait bouger par le Real Madrid. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas les bouger aussi ? Mais attention, pourquoi nous, on ne pourrait pas se faire bouger aussi ?
Ça marche dans les deux. Je pense que ce Bayern-là n'est pas habitué à avoir un bloc aussi bon que le PSG dans leur championnat. Par contre, nos forces pour mettre des buts, ça, on voit que le Bayern, derrière, ça tremble un peu. Et si ça veut bien jouer côté PSG, il peut y avoir des buts. Après, si tu arrives qu'avec un seul but d'écart au Bayern,
hier Mayence en avait 3 de buts d'avance à la mi-temps, et ils ont comblé le retard en faisant entrer Olise.
Ils ont fait entrer l'Armada, ils ont gagné 4-3. Donc, c'est pour dire la marge aussi de cette équipe. Merci Ethan de nous avoir appelé au 32-16. Il y a beaucoup de messages sur WhatsApp au 06-12-424-424. Il y a Antoine qui nous dit oui, attention, le Bayern concède beaucoup d'occasions aussi. Je suis d'accord avec Bennett. Donc évidemment, c'est un match qui va être à suivre sur RMC. J-2 avant PSG Bayern. Ce sera à vivre évidemment sur notre antenne demi-finale aller de Ligue des Champions. Dans un instant, les jeux du sport. Et puis on va revenir sur les jeux Bastogne-Liège aussi. Un dernier mot pour savoir où on en est sur la course. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Allez, on joue dans un instant, mais d'abord Liège-Bastogne-Liège, c'est parti depuis 10h ce matin. Maria Azé, on en est où dans cette course déjà un peu folle, hein?
Ouais, il reste encore 177 km, Georges. On n'a pas fini dans cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Je vous le disais tout à l'heure, une chute ce matin a créé une cassure entre deux groupes dans le peloton, donc un groupe de tête composé d'une cinquantaine de coureurs où figure Remco Evenepoel. Ils ont 3 minutes 40 d'avance sur le second groupe où sont Tadej Pogacar et Paul Sexas, la Décathlon CMA CGM et UAE sont les deux seules équipes qui ne sont pas représentées à l'avant. Donc ils collaborent, ils font tout pour essayer de combler cet écart de 3 minutes 40, quitte à en laisser quelques plumes. Georges, on est à 177 km de l'arrivée. Donc.
Eh ben dis donc, il en reste encore avec déjà tout ce qui se passe. Ça nous promet un sacré spectacle. À tout à l'heure, Maria. Tout de suite, les jeux-jeux.
RMC, les jeux-jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2 et vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes.
Ouh, oh là.
Nous,
oseront-ils? Non, ils oseront jamais.
Christophe Cessieux avec Julien Benetton.
Non, ils ont fait. Non. Tu peux ranger le stylo.
Jérôme Pinault avec Cédric Emmons. Oh. Jérôme, Cédric.
On n'a rien à perdre.
Non, tu vois. Jérôme, Cédric, c'est le moment.
Ben oui.
De voilà.
De faire une légende. On est
c'est un peu le
On est Paul Sexas au départ de Liège. Voilà, si on gagne, c'est un exploit. Voilà.
On va voir si vous êtes fait pour l'élite ou pas.
Attendez les gars, les goûts. J'entends parler que de vous depuis le début. Et je sais Christophe. Alors Christophe, au moins. Là, s'il perd, par contre, là, on le perd.
Allez, je rappelle. Question impossible. Regardez, il rigole à 11h40.
Il finira.
Combien de points la question? Gardez bien cette image.
Christophe perd aujourd'hui.
Pas droit. Attention, allez, je rappelle, question impossible activable par un seul joueur par émission, c'est 3 points. Si vous réussissez, 1 point en moins, si c'est pas bon. On accueille les auditeurs Gabriel et Sabrina. Bonjour messieurs, dames.
Oui, bonjour.
Sabrina, c'est toi qui as appelé en première, tu nous appelles du Tarn. Je te laisse choisir ton équipe, Cessieux Beneteau ou Pinault Emmons.
Cessieux Beneteau
pour Sabrina. Gabriel, tu es donc avec l'équipe Pinault Aimant, je rappelle aujourd'hui, a gagné un séjour dans un des 400 campings Homer. Allez les amis, c'est parti.
Cédric, il est concentré.
Question jamais. Une seule réponse. Question à une seule réponse. Quel est le seul Français à avoir remporté le Masters 1000 de Madrid?
Le éliminé quoi?
Masters 1000 de Madrid en tennis.
Le seul Français.
Le seul Français. Qui a dit son gars?
Moi.
Non, c'est pas bon.
C'est une réponse.
Une réponse.
Homme ou femme confondu?
Homme.
Personne.
Non, c'est pas bon. Cédric, tente un nom, tennis.
Casqué.
Non, c'était Yannick Noah.
C'est pas Masters 1000.
On devrait toujours dire
c'était pas Madrid. Bah oui, bah, rien à voir. C'était le tournoi. C'était pas du tout à Masters 1000 à l'époque. Ah bah c'est impossible.
De toute façon, il n'y a pas de point.
Impossible de trouver.
De toute façon, il n'y a pas de point.
Vous enlève un point.
Question à plusieurs réponses. Quelle capitale européenne accueille un marathon ce dimanche?
Berlin, Londres?
Non.
Londres, Julien Benedetti.
Ah putain, ça va trop vite.
La Nantes, c'est une capitale européenne.
C'est vrai.
Il y a le marathon de Nantes aujourd'hui.
Question auditeur, c'est pour vous, Gabriel. Allez, Sabrina. Dites-moi, s'il vous plaît, dans quelle franchise NBA joue Wembanyama?
San Antonio Spurs.
Gabriel, bien joué.
Gabriel,
hein,
partout.
Merci. Mauvais, hein. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Qui est le recordman de victoire sur Liège-Bastogne?
Merci,
Benetto. Pars plus vite. Faut aller plus vite, Jérôme. 2-1.
Je suis là toute la journée, moi. Je crois.
Faut démarrer diesel. Moi aussi, c'est pareil que toi.
Question à plusieurs réponses. Qui est le dernier Français à avoir terminé sur le podium?
Barbet.
Julien Lafilippe.
Romain Barbet.
Ah, oh, mais le mec, il a un joueur.
Qu'est-ce que tu fais de la journée 3?
Question.
Ah, c'est facile de jouer avec lui, en fait.
Question auditeur. Ah, d'ailleurs, j'ai eu aussi content, Christophe.
Ah, ben, j'ai pas marqué un point.
Comme d'hab. Question auditeur pour Gabriel et Sabrina.
Gabriel, allez.
Quel club a validé son accession à la Ligue 1 hier soir?
Trois.
Bien joué, Sabrina.
Bravo, Sabrina.
Bravo, Sabrina.
4-1. Donc, pour l'équipe, c'est Cieux Beneteau. Question à élimination. C'est parti, les amis. Vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Citez-moi les 21 joueurs de l'équipe de France de foot ayant le plus porté le brassard de capitaine depuis les années 70. Depuis 1970.
Quoi?
Jérôme, les 21 joueurs de l'équipe de France ayant le plus porté le brassard de capitaine.
Les capitaines, en fait. Les capitaines.
Capitaine ayant plus le brassard.
Platini.
Bennett.
Lloris.
Hugo Lloris, ouais, numéro 1.
Laurent Blanc.
C'est bon. Christophe.
Marcel Desailly,
c'est bon. On cherche les capitaines de l'équipe de France depuis les années 60, depuis 1970, ceux qui l'ont le plus porté. Jérôme Pinault. Capitaine des Bleus.
JPP,
c'est bon. On l'embrasse, JPP. Bennett.
Deschamps.
Bah oui.
Ah ouais.
Les gars.
Ouais.
Cédric.
Giresse.
Giresse, c'est pas bon, éliminé. Christophe Cessieux.
Je sais pas.
Tu sais pas?
Non.
Le brassard de capitaine.
Non.
3, 2, 1. Quand il est dans l'équipe avec Bennett, il se repose tellement sur lui.
Non.
Jérôme.
Joël Batz,
pas bon. Julien Beneteau.
Bah, Zidane.
Zidane, c'est bon.
Ah ouais.
Victoire de Julien Beneteau qui prend donc.
Combien ça fait?
Vous avez été 4. Hein. Il restait Marius Trésor, Manuel Amoros, Thierry Henry, Patrick Vieira, Kylian Mbappé,
Lilian Thuram.
C'est bien, j'ai pas utilisé mon stylo. Moi.
Ça fait donc 6-1 pour l'instant.
Question impossible.
Question impossible pour 6. Cédric Aimance pour donc tenter de revenir à 6-4. Cédric. Qui est le meilleur marqueur d'essai en top 14 à l'heure actuelle? Et si tu le trouves, je te demanderai de l'épeler.
Non, c'est pas Abdel Diarré. C'est pas Actis Ogbé.
Non.
C'est pas.
Putain, je. À la fin de la musique, c'est terminé.
Ah oui, ça y est.
Ah oui, évidemment, tu en restes tombé.
Mais non, mes yeux.
Oui, mais non, mais.
Je l'ai perdu, je suis nul. C'est un pas droit, non?
C'était Wayne Nicolo.
Ouais.
16 essais en 16 matchs.
6-0.
6-0, un bon mois. Bon, allez, on va continuer quand même.
Oui.
Question auditeur, c'est pour Sabrina et Gabriel. Quel attaquant du Bayern est le meilleur buteur d'Europe?
Olivier.
Tennis. C'est Harry Kane, bien joué Sabrina, 7-0.
Oh, c'est
mal. Normalement, c'est Fanny. 7-0, c'est en face des fesses de Fanny.
Question à plusieurs réponses. Quel pilote français en sport automobile songe à arrêter sa carrière?
Sébastien Ogier,
Bellet.
J'ai même pas le temps d'entendre.
8-0.
Vas-y, enchaîne, vas-y, va
jusqu'à 10.
Question à une seule réponse. Quelle franchise est la plus titrée de l'histoire de la NBA?
Celtics.
9-0.
Je l'ai dit avant. La décima.
Je sais pas si j'ai encore des réponses.
Il y a des questions, le mec.
Qui est premier de Première Ligue ce matin? Une seule réponse.
Arsenal.
Allez, c'est parti. 10-0, c'est terminé.
Est-ce qu'il vaut mieux pas perdre une fois 10-0 que
10 fois 1-0?
Ah,
mais ce qui est cool, c'est que maintenant, il reste une 30. On fait quoi là?
Je vais d'abord féliciter Sabrina pour ce que tu remportes le jeu. Tu remportes le séjour d'un des 400 campings d'Omer. Bravo.
Jouer sur RMC avec Omer, des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Omer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
Ça me permet pour la première fois depuis le début de la saison de pouvoir remercier en studio Christophe Cessieux d'être allé au bout de cette émission. Merci Christophe.
Applaudis. Bravo. Moi, j'ai pas pris sa chaise dans les tibias. Ça va très bien.
De...
Je n'ai rien dit. Comme hier, je n'ai pas bouché.
En revanche,
j'ai failli quand même lui casser la figure hier après-midi.
Ouais, c'est un contrôle des émotions.
Quand je participe à l'émission et qu'il y a Julien Beneteau maintenant,
tu révises plus.
Je programme très très peu de travail sur les jeux parce que c'est injouable.
En fait. Les gars, en fait, c'est l'élite, c'est ça.
Celui qui remporte les GG la semaine d'après doit faire le questionnaire. Et il se pose à la place de Georges qui, justement, intègre la
merde. Merci Christophe, c'est pas toi qui décide. Allez, merci Bellet, merci Jérôme, merci Zéry. Merci Christophe, messieurs, les paris RMC tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.